Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Race et Histoire » est un essai d'anthropologie publié initialement en 1952 dans le contexte des réflexions internationales sur le racisme après la Seconde Guerre mondiale. Claude Lévi-Strauss y examine le rapport abusivement établi entre différences biologiques, différences culturelles et inégalités historiques. Son objet central est de démonter le racisme non par une simple injonction morale, mais par une analyse des conditions réelles de la diversité humaine. Le texte conteste l'idée selon laquelle les sociétés formeraient une hiérarchie allant du primitif au civilisé et selon laquelle une seule trajectoire historique, généralement occidentale, fournirait la mesure universelle du progrès. Lévi-Strauss propose plutôt de comprendre les cultures comme des ensembles singuliers, porteurs de solutions diverses aux problèmes humains. Concis mais conceptuellement dense, cet essai fondateur du structuralisme anthropologique articule une critique de l'ethnocentrisme, une réflexion sur le progrès et une défense exigeante de la diversité culturelle. Cette édition est accompagnée d'un texte de Jean Pouillon qui situe le travail de Lévi-Strauss. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la séparation décisive entre différences raciales et réalités culturelles. Lévi-Strauss commence par refuser une confusion qui alimente les doctrines racistes. La diversité des populations humaines ne permet pas de déduire une inégalité des aptitudes, intellectuelles, morales ou créatrices. Les caractéristiques physiques ne constituent pas une explication satisfaisante des langues, des institutions, des techniques ou des formes artistiques. Une culture est transmise, apprise et transformée socialement. Elle ne se réduit donc pas à une hérédité biologique. Cette distinction ne consiste pas à nier les différences visibles entre groupes humains. Elle oblige au contraire à déterminer ce que ces différences peuvent réellement expliquer et ce qui relève de processus historiques, d'échanges, de choix collectifs et de milieux sociaux. Le raisonnement vise ainsi le passage illégitime du constat de variation à un jugement de valeur. Qu'une société diffère de la société occidentale ne prouve ni une incapacité ni un retard naturel. En dissociant race et culture, le livre déplace la discussion au lieu de classer les peuples. Il faut étudier les systèmes culturels dans leurs relations et leur histoire propre. Cette clarification conserve une portée méthodologique majeure pour toute analyse des inégalités qui prétendraient les naturaliser. Deuxièmement, l'ethnocentrisme comme source ordinaire du jugement de barbarie. Le livre montre que la tendance à considérer ses propres usages comme naturels et ceux des autres comme absurdes est très largement partagée. Lévi-Strauss appelle ethnocentrisme cette disposition à faire de sa culture le critère de toute humanité légitime. Le mot barbare illustre ce mécanisme, il sert souvent à rejeter hors de la culture ceux dont les pratiques, les croyances ou les règles sociales paraissent étrangères. Or, ce rejet produit une contradiction révélatrice. Celui qui refuse de reconnaître l'humanité culturelle de groupes différents reproduit précisément le geste qu'il leur attribue. Lévi-Strauss ne demande pas une admiration indistincte de toutes les coutumes, ni une suppression fictive des écarts. Il invite à comprendre que le regard évaluateur est situé et que ces évidences sont historiquement constituées. Cette démarche impose une discipline intellectuelle d'écrire avant de hiérarchiser, restituer la cohérence interne avant de conclure à une substance de raison. Elle aide également à distinguer la critique raisonnée de pratiques concrètes du mépris global envers une population. La lutte contre le racisme commence alors par une interrogation sur les catégories à partir desquelles une société se donne elle-même comme norme universelle. Troisièmement, le progrès historique ne suit pas une échelle unique de civilisation. Une cible essentielle de race et histoire est la représentation évolutionniste qui range les sociétés sur une même ligne de développement. Selon ce modèle, certaines cultures seraient en avance parce qu'elles ressemblent davantage aux sociétés industrielles modernes, tandis que les autres seraient des survivances du passé. Lévi-Strauss récuse cette image pour deux raisons. D'une part, les domaines de comparaison sont multiples. Une société peut manifester une grande élaboration dans son organisation sociale, ses connaissances du vivant ou ses arts, sans suivre la même trajectoire technique qu'une autre. D'autre part, les faits historiques ne composent pas une progression régulière et homogène. Les innovations apparaissent dans des contextes particuliers, connaissent des accélérations, des interruptions et des déplacements. Dire qu'une culture est sans histoire parce que son histoire ne prend pas la forme familière de la modernisation occidentale revient donc à confondre différence des rythmes et absence de devenir. Le livre ne nie ni les transformations techniques ni l'importance de certaines inventions. Il conteste la prétention de convertir ses réalisations en mesure totale de la valeur humaine. Le progrès devient ainsi un problème de pluralité des chemins historiques, non un classement définitif des peuples sur une échelle de mérite. Quatrièmement, les grandes innovations naissent de combinaisons entre cultures. Lévi-Strauss associe la créativité historique à la diversité et à la mise en relation des cultures. Les transformations importantes ne sont pas nécessairement le produit isolé d'un peuple supposé exceptionnel. Elles résultent souvent de coopération, de circulation et de rapprochement entre traditions qui possèdent des ressources différentes. Une culture entièrement repliée sur elle-même peut préserver certaines formes, mais elle réduit les occasions de confrontation féconde et de recombinaison. Cette thèse évite deux positions opposées. Elle refuse le nationalisme culturel qui attribue les accomplissements à une essence collective immuable. Elle refuse aussi une uniformisation qui détruirait les écarts nécessaires à la création. Pour Lévi-Strauss, la diversité N n'est pas un décor pittoresque autour de l'histoire mondiale, elle est une condition de son inventivité. Les échanges n'ont toutefois de sens que si les partenaires conservent assez de singularité pour apporter des possibilités distinctes. Cette analyse permet de comprendre pourquoi l'interdépendance humaine ne devrait pas se traduire par la réduction de toutes les sociétés à un modèle dominant. La coopération productive suppose un équilibre difficile entre communication et maintien des différences. Le texte donne ainsi une base anthropologique à la défense de la pluralité culturelle, sans traiter les cultures comme des blocs clos et immobiles. En dernier lieu, une défense de la diversité qui ne confond pas relativité et immobilisme, la critique des hiérarchies culturelles pourrait être mal comprise comme l'affirmation que toutes les pratiques se valent sous tous les rapports ou que chaque culture devrait demeurer séparée des autres. Reiss et Histoire soutient une position plus exigeante. Lévi-Strauss insiste sur la relativité des critères par lesquels les sociétés se jugent, mais il analyse aussi les contacts, les emprunts et les conflits comme des dimensions constitutives de l'histoire. Il ne présente donc pas les cultures comme des unités pures, préservées de toute influence. Sa question porte sur les conditions dans lesquelles la diversité peut persister sans empêcher les relations humaines et dans lesquelles les relations peuvent enrichir sans uniformiser. Cette tension donne au livre sa profondeur durable. Une civilisation qui se croit universelle risque de prendre sa propre expansion pour une preuve de supériorité. À l'inverse, une vision qui enfermerait chaque groupe dans une identité intangible empêcherait de reconnaître les transformations et les solidarités historiques. L'intérêt du texte réside dans ce refus des solutions simplistes. Il propose de penser simultanément la différence, la communication et la comparaison, en renonçant au langage des essences raciales. Cette perspective demeure utile pour analyser les débats sur la mondialisation, le patrimoine, les minorités et les politiques de reconnaissance culturelle. En conclusion, Reiss et Histoire s'adressent en premier lieu aux étudiants en anthropologie, en sociologie, en philosophie politique et en histoire des idées, mais sa brièveté le rend également accessible à tout lecteur souhaitant examiner les présupposés des discours sur les peuples, le progrès et la civilisation. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir des distinctions solides, différences biologiques, effets culturels, diversité et inégalité, échange et uniformisation, histoire plurielle et échelle unique du progrès. Ces distinctions aident à repérer les raisonnements qui transforment une préférence culturelle ou une domination historique en prétendue évidence naturelle. Le livre ne propose pas une recette de tolérance. Il demande un effort d'analyse sur la position depuis laquelle chacun juge autrui. C'est précisément ce qui le distingue de nombreux textes généraux contre le racisme. Lévi-Strauss ne se limite ni à condamner moralement les préjugés, ni à célébrer abstraitement les différences. Il explique les mécanismes intellectuels qui rendent les hiérarchies plausibles et montre pourquoi une histoire mondiale ne peut être ramenée au récit victorieux de la modernité occidentale. La concision de l'essai exige une lecture attentive, car les formules synthétiques condensent une argumentation dense, lue avec le complément de Jean Pouillon dans cette édition. Il offre aussi une excellente porte d'entrée vers la méthode comparative et les problèmes majeurs de la pensée de Lévi-Strauss. Sa valeur tient à cette articulation rare entre rigueur conceptuelle, porte politique et attention aux formes concrètes de la pluralité humaine. Si vous souhaitez soutenir Claude Lévi-Strauss, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.